Paf, le magazine. Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard.
Et en fait, le grand problème, c'était pour le faire signer. Signer voulait dire « j'ai terminé, je suis content de moi » et ce n'était jamais le cas. Et ça, c'est la plus belle leçon, c'est toute une leçon de vie qu'il nous donnait. Toute ma vie, j'ai suivi des idées de Picasso, pas forcément pour la peinture, pour éduquer mes enfants, pour leur parler, pour me conduire. Et je voyais comme il respectait les gens, on parle des artisans, comme il respectait et comprenait les gens par leur morale. Il devinait les gens, il avait une intuition. Je voyais quand des gens l'approchaient, il sentait tout de suite qui s'adressait à la célébrité ou qu'il préférait presque les gens qui n'aimaient pas ce qu'il faisait. Au moins, il savait qu'il n'attendait rien.
Alors, Daniel, on va reprendre Picasso dans la... Chers auditeurs, bonsoir. Certains ont reconnu cette voix, d'autres non. Il s'agit de la voix de Daniel Bodolakhtine qui nous a quittés le 20 novembre 2017. Nous avons reçu plusieurs fois Daniel dans cette émission. Nous avions pour 2018 le projet en commun d'une émission carte blanche. Daniel était, selon moi, écrivain, écrivaine si vous le voulez, la plus remarquable du Pays de Grâce historique. Daniel, oui, honorait ce beau mot d'écrivain. Il ne suffit pas d'écrire un ou quelques livres pour mériter ce titre. Micro-histoire, roman, récit de vie, conte, elle a eu recours à plusieurs types d'écriture. Daniel, passeur en humanité, titre encore plus rare et qu'elle a honoré et honorera toujours. Daniel était en plus une artiste remarquable. Puis un jour prochain, le Pays de Grâce historique organisait une exposition sur son parcours d'artiste. Daniel, une voix s'est éteinte ? Non, non, une voix pour l'éternité. Jeudi prochain, 30 novembre, nous lui consacrerons une émission spéciale. Daniel, écrivaine et passeur en humanité, avec des documents inédits. Pour cela, l'émission prévue à cette date, des artistes et des agriculteurs du monde azur parlent de leur idéal et de leur avenir, est reportée au lundi 29 janvier. Le mardi 30 janvier, nous aurons Bernard Verjoli, qui est un guide assez extraordinaire pour le 21e siècle. Et le mercredi 31 janvier, ce sera la première émission sur l'écriture, un débat essentiel. Mais revenons à ce mois de novembre. Mercredi prochain, 29 novembre, une émission sur le Mexique, pays de couleurs et de contrastes, une émission originale enregistrée au Mexique il y a seulement quelques jours. Ce soir, c'est Alain Corbin. Son père, antillais, devient médecin de campagne en Normandie. Sa mère est normande. Il grandit dans un petit village de Normandie et termine comme professeur des universités à la Sorbonne. Un historien. Ses travaux justifient qu'on le présente comme un historien du sensible. En 2016, pour la sortie du livre « Histoire du silence », les médias nationaux ont beaucoup parlé de lui. Depuis cette date, il a écrit « Histoire des émotions », deux tomes, avec deux auteurs, et en 2017, une histoire savoureuse, « Buissonnière de la pluie ». Il nous a reçus chez lui à Paris pour cette émission, et les musiques qu'il a choisies, c'est Bach. Bach est toujours Bach, m'a-t-il dit. Alors, écoutons-le. Monsieur Corbin, j'aimerais que notre entretien se déroule quasiment en sept étapes. La première, c'est « Quel est votre parcours et les moments forts de votre parcours ?»
Ben, le parcours n'est pas tout à fait ordinaire. Je suis né dans le bocage du sud du Cotentin. Et quand, à 16 ans, j'ai eu le baccalauréat, je ne connaissais même pas l'existence des écoles normales supérieures, des cagnes, des hippocagnes. J'étais totalement ignare dans ce domaine. Je suis donc allé à l'université la plus proche de la Normandie, qui était excellente d'ailleurs, qui était l'université de Caen. Et donc, J'ai suivi le cursus jusqu'à l'agrégation, mais je ne connaissais pas du tout les milieux parisiens, les grands professeurs, ce qu'on appelait les mandarins, etc. Donc, je ne connaissais personne, à part des professeurs de Caen, pour diriger une thèse, par exemple, ma thèse, voilà. Et par la suite, je crois que ça donne beaucoup d'indépendance, ce bocage normand. Ça donne beaucoup d'indépendance, c'est-à-dire que je n'ai jamais été un historien qui cherche à prouver quelque chose, qui soit engagé, qui soit dans les luttes. Alors que dans ma génération, c'était très fréquent. Il y avait quand même des historiens communistes qui tenaient en grande partie le haut du pavé, on le sait. Il y avait toutes sortes d'engagements de ce genre. Je prendrai comme exemple pour le 19e siècle, le monde ouvrier. Tout ça, je ne me suis pas engagé dans cela parce que ce qui m'intéressait, c'est justement de me faire plaisir. J'ai jamais eu l'impression que c'était un travail que d'aller dans les archives. J'ai beaucoup aimé les archives, hein, l'archive municipale, l'archive départementale, l'archive nationale, etc. Être seul face à un document dans une petite préfecture de montagne en France, j'ai fait des tours de France, plusieurs tours de France dans cette perspective-là, et c'est ça qui m'a toujours plu, si vous voulez, tant que j'ai pu, j'ai eu l'âge de le faire, parce que quand même c'est un peu fatigant.
Vous avez fait un livre, me semble-t-il, sur un sabotier inconnu.
Oui, ça c'est pas un sabotier inconnu. Je m'étais dit, c'est très curieux, on parle du mouvement populaire du peuple, des ouvriers, etc., du 19e siècle, est-ce qu'on les connaît? Simplement, c'est les gens du commun. Est-ce qu'on les connaît? Et je suis persuadé qu'on ne les connaissait pas. Il y a peut-être en France, peut-être quatre textes d'anciens ouvriers qui, en général, n'étaient plus ouvriers quand ils ont pris la plume. Et donc, de ce fait, il y a une sorte je sais pas comment dire, peut-être un peu de malhonnêteté. Et j'ai été frappé aussi par le fait que les gens qui m'avaient précédé, de deux ou trois générations, disons, de celles de mes arrière-arrière-grands-parents, c'est-à-dire du début du 19e, dans les cimetières de campagne que j'ai continué d'écrire, parce que tout ce que j'ai écrit dans la campagne, ils étaient perdus. Ils étaient disparus à jamais. Et je me suis dit, voilà, pourquoi tu n'essaierais pas d'en ressusciter un? Alors, évidemment, lequel? Donc voilà, je me suis amusé à aller en choisir un au hasard, et puis dans les archives de l'Orne, du département de l'Orne, qui est un département assez peu connu maintenant, et j'ai échoué. Je veux dire que on ne peut pas retrouver les sentiments, on ne peut pas retrouver les passions, on ne peut pas retrouver les opinions de ces gens disparus. Mais par chance, en France, on peut quand même les suivre dans toute une série, parce que l'administration du 19e siècle, quel que soit le régime, était assez précise, inquisitrice. Hein. Que ce soit à la naissance, que ce soit lors du conseil de révision, que ce soit lors de l'inscription sur les listes électorales, etc., que sais-je encore, jusqu'à la mort, jusqu'à la fortune, on sait pas mal de choses. Donc j'ai suivi ce monsieur, mais évidemment, j'étais tombé au hasard sur un sabotier indigent, analphabète. C'était pas ça compliquait encore les choses. Mais on peut reconstituer son entourage avec cette méthode, voir qui il fréquentait, où il allait, etc. Puisqu'on peut avoir des choses sur ses fils, ses voisins. On peut connaître, je veux dire, des choses sur ses fils, sur ses voisins, mais pas sur ses sentiments. Voilà. Alors, donc, d'une certaine façon, c'est une expérience qui m'a amusé aussi, hein, qui m'a ému un peu. Parce que ce monsieur, je l'ai un peu ressuscité quand même. Et comme je dis, s'il y a un au-delà, si je le rencontre, il sera Il sera étonné. Mais j'ai montré quand même qu'il y a beaucoup d'exagération dans ce qu'on peut écrire sur les gens du peuple de l'époque. Parce que ceux qui ont commis un crime ou un délit, c'est possible, parce qu'il y a des archives judiciaires qui jettent quelques lumières, quoi. Mais pour les autres, pour celui qui n'a rien, qui n'a pas tué, qui n'a pas commis de délit très grave, qui n'a pas été ramassé ivre-mort, il n'y a rien. Je qualifierais ce que je fais, puisque je travaille sur l'herbe, de nano-histoire, pourquoi pas. C'est-à-dire de descendre un petit peu plus profondément dans le petit. Voilà.
Non, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Vous allez plus loin que la micro-histoire.
Plus loin dans un sens.
Dans un sens, parce que vous rentrez dans le singulier, dans le particulier, ce qui n'a pas été exploré généralement.
Sauf parmi ceux qui ont laissé des mémoires, des
autobiographies.
Vous pouvez faire quand même une biographie de Jean-Jacques Rousseau, quoi.
Non, mais j'entends. Mais votre esprit qui vous anime, à la fois de vous faire plaisir, c'est d'aller fouiller, farfouiller là où on ne va pas en général.
Oui, ça c'est sûr que. Face à un document d'archives, je cite souvent ce cas parce que ça excite beaucoup l'émotion. Je travaillais sur les cloches parce que j'avais été mêlé à des affaires de cloches dans mon bocage. Je travaillais sur l'histoire des cloches. Je me rends à Brest, aux archives, c'est arrivé, police des cultes, c'est connu quoi, hein, pour police des cultes. En 1880, je crois, ou 81, peu importe, victoire de la République, les maires obtiennent le droit de sonner à la volée. Avant, ils ne pouvaient que tinter. Ding, 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 le maire. C'était le curé qui pouvait sonner
à la volée.
À la volée, sur les deux battants. Et évidemment, ça a créé des troubles. Parce que beaucoup dans les régions, en particulier Ferrandes, de prêtres, ne voulaient pas laisser le maire sonner à la... Ça paraît dérisoire, pas du tout.
Non, c'est pas dérisoire.
Pas du tout. Alors, j'avais, à propos d'une petite commune rurale, un télégramme du maire adressé au préfet. Cinq mots seulement. Et, à mon avis, un bon romancier pourrait, à partir de ces cinq mots, faire quelque chose de bien. Ces cinq mots, les voilà. Mais, impossible sonner, curé prend revolver. C'est d'accord, c'est fort.
Ah, c'est fort.
J'avais rien d'autre. Pas de document concernant l'éventuelle affaire au début, ni après. J'avais simplement conservé dans des archives, un peu par miracle, ce télégramme à la préfecture, impossible de sonner, curé prend revolver.
Ça traduit tout un climat.
C'est ça, les archives. Vous savez, le grand historien Alphonse Dupron a écrit quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé. Il m'a dit, face aux documents d'archives, une petite formule, une toute petite formule, il faut laisser monter le sens.
C'est joli. C'est très joli.
Et c'est surtout que ça veut dire qu'il ne faut pas l'imposer. Il ne faut pas arriver avec des idées préconçues. Il faut écouter. Hein? Ça, c'était pour moi le principal en histoire, c'est de... si on veut enfiler la peau des autres du passé, il faut les écouter. Il ne faut surtout pas imposer. S'imposer, en quelque sorte, soi-même. Donc, de la disponibilité, ça, c'est extrêmement important.
Vous avez une chance inouïe, parce que vous avez été protégé par le bocage, qui vous a évité d'entrer dans les castes, dans les enjeux de Paris,
oui.
Et vous vous êtes fait plaisir en marchant à votre rythme,
voilà.
Et en laissant le sens apparaître.
Oui, mais voilà, c'est difficile parfois, peut-être, de ne pas... Je disais souvent aux étudiants qu'une partie de la recherche se faisait que dans le chemin qui conduisait aux archives, c'est-à-dire un retour sur soi pour se demander est-ce que je ne vais pas chercher quelque chose, est-ce que je ne vais pas imposer à ma lecture justement ce que je cherche, ce que j'aimerais rencontrer. Donc on revient à laisser monter le sens.
Monsieur Corral, là je me permets de vous arrêter. Vous avez écrit quelque chose sur ce que vous venez de dire, qui est une démarche de recherche, du chemin de recherche, que je ne trouve pas souvent dans les sciences sociales.
Non, c'est-à-dire que je n'ai jamais écrit d'égo histoire, c'était à la mode. Hein,
j'entends, mais laissons le mot égo.
Non, il m'est arrivé dans des petits morceaux d'articles de donner des conseils comme ça, mais
oui.
En enseignement, mais ça n'a jamais fait l'objet d'un livre.
Pourquoi ne pas les réunir? Parce que vous traduisez un esprit de recherche qui est important.
Ah, c'est une idée. Un tout petit livre, alors.
Un tout petit livre. Je reviendrai vous voir. Monsieur Corbin, il y a un livre dont je veux vous parler parmi les derniers, c'est L'histoire du silence, que j'ai beaucoup aimé, dont on a parlé.
Oui, alors ça, j'ai été très surpris. En général, les livres ont soit plus ou moins de succès, jamais... Mais enfin, certains, deux ou trois, ont eu... c'est le cas du silence, alors que j'ai fait ça, alors que j'étais un peu alité, je savais pas quoi faire. Mais ça s'explique quand même. Et j'y tiens maintenant qu'il est traduit un peu partout. C'est que j'ai reçu une formation, non pas seulement du bocage, mais de l'enseignement chrétien, catholique. Dans ce bocage, il n'y avait que des croyants, que des fervents. Sur les 3000 habitants de la petite commune où mon père était médecin de campagne, on disait qu'il y avait 7 ou 8 mécréants, simplement, des gens qui ne croyaient pas. Et il y avait 6 messes le dimanche.
6.
6 messes qui se succédaient, mais ça c'est un catholicisme en grande partie sociologique, disaient les sociologues hein, maintenant. Et mon père était très catholique. Il venait des Antilles, et aux Antilles, on était parfois très catholiques. Enfin, il allait à la messe tous les matins, avant ses consultations, et il m'a mis donc dans des écoles primaires et secondaires qui étaient catholiques. Et un jour, au moment du brevet, 1949, ça remonte à loin, il m'a emmené 3 jours, au moment de la Semaine Sainte, dans la grande trappe de Soligny. Alors ça, on en parle moins. Soligny, la trappe, c'est la trappe de l'abbé de Rance, réformée par l'abbé de Rance au XVIIe siècle, dans laquelle les moines ne parlent pas. Donc j'ai vécu pendant 3 jours, je croisais des moines qui ne parlaient pas.
C'était le silence.
C'était pas pour les quelques visiteurs admis qui avaient, etc. Mais quand on circulait, là. Un jour, il fallait que je fasse un article pour des mélanges d'un collègue. Vous savez ce que c'est qui prenait sa retraite? Histoire religieuse. Et je lis Vide rancée de Chateaubriand, qui est le silence et l'objet principal de Villeneuve et de Chateaubriand. Et je me suis aperçu que Chateaubriand ne réussissait pas à comprendre le silence du XVIIe siècle. L'abbé de Rancet a écrit une instruction, la 27e ou 29e, je ne sais plus, sur le silence. Et ça gêne beaucoup Chateaubriand, parce que Chateaubriand, c'est le romantique du sublime, du vent dans les cheveux, du fracas, du cosmos, etc. C'est vraiment l'opposé. Et son confesseur, c'était une sorte de pénitence. Alors j'ai fait un article pour ce collègue qui prenait sa retraite, et quand je me suis dit, tiens, c'est quand même important.